carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Carrefour des Arts vous propose toute une série d'émissions consacrées à l'œuvre ultime dans l'art en compagnie de Jacques Lubinet, correspondant dans la section membre libre de l'Académie des Beaux-Arts et secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie nationale de médecine. Cette dernière émission vous propose de vous pencher sur les dernières œuvres du sculpteur et dessinateur suisse Alberto Giacometti, mondialement connu pour ses sculptures de personnages longilignes aux surfaces accidentées. Issu d'une famille d'artistes, Alberto Giacometti vit une enfance heureuse et part à Paris à l'âge de 21 ans à l'atelier Bourdelle après avoir suivi les Beaux-Arts à Genève. Et très vite, Jacques Lubinet apparaît dans son travail le conflit entre la vision et le toucher, la vue et la main du sculpteur.
Oui, c'était son grand problème qu'il n'a pas connu dans son enfance parce qu'il vivait dans une famille très intellectuelle. Son père était lui-même peintre et il donnait à toute sa famille et à lui-même l'impression de pouvoir faire tout ce qu'il voulait. Donc il n'y avait pas de discordance entre ce qu'il voyait et ce qu'il représentait. C'était la même chose. Déjà, on présente la ressemblance, vous voyez. Mais c'est la même chose, c'est le même talent. Alors, il y a une première crise, son père part quelques jours. Il aimait beaucoup son père, c'est une famille très très unie, très italienne. C'est des Suisses, mais des Suisses italiens, hein. C'est-à-dire que la maman, c'est quelque chose. Bon, et il ne se souvient plus de la tête de son père. Il est parti 3 jours, première crise, il ne se souvient plus de sa tête. Et il le prend mal, lui, Alberto. Puis son père revient, puis on oublie. Et puis il part à Paris, parce que Paris, c'était quand même la capitale des arts. Et là, de nouveau, il ne peut plus rien représenter. Son père n'est plus là, il n'a plus de conseils, il vit solitaire, il ne peut plus rien représenter. Et alors, il se tourne vers une première période, qui est la période dure et qui est la période surréaliste. C'est-à-dire que, peu importe le toucher, ce qui va être important, c'est la vue. Il oublie la ressemblance complètement. Il est obsédé par des images soit érotiques, soit surréalistes. Il le dit très bien. Il le répète avec des sculptures terribles, hommes et femmes, qui est quand même une aiguille qui va toucher quelque chose qui est une femme. Je dis quelque
le
chose.
Ventre, ouais.
Pointe à l'œil, c'est pas mieux, c'est pas plus tendre. C'est de nouveau quelque chose d'aigu qui va toucher l'œil de quelqu'un. Et puis, Fleurs en danger de 32, tout ça sont des sculptures très connues, que tous les musées du monde connaissent, où est restée en plate l'image d'une fleur, et devant, il y a un arc qui est tendu. Bon, tout ça, ça a beaucoup plu au milieu surréalisme français, c'est devenu l'ami de Breton, c'est leur peintre surréaliste, lui, il se laisse pas trop faire, c'est un individualiste. Et il se dispute avec Breton.
Donc il casse ses liens avec les surréalistes.
Il ne veut pas faire partir d'aucun groupe. Il a fait ça, bon, très bien, mais enfin, il n'est pas vraiment surréaliste. Il ne se veut pas un surréaliste. Et Breton lui dit, arrêtez de faire des têtes. Alors, il veut refaire des têtes. Et Breton lui dit, mais qu'est-ce qu'on a à faire des têtes? Mot abominable qu'il va répéter très souvent. Alors, à ce moment-là, donc 35, très tôt, il veut retourner à la ressemblance. Il veut retourner à la ressemblance, et pour retourner à la ressemblance, il attaque le dessin. Et les lignes du dessin, les lignes une par une qui répètent, qui collent. Et ces dessins sont très singuliers, car ils enferment la forme. Ils enferment la forme à l'intérieur d'un volume, avec une saillie, si vous voulez, de la partie médiane de la forme. Bon. Et une multitude de traits à l'intérieur duquel, au début, on ne reconnaît pas grand-chose. Alors, il le fait sur n'importe quoi. Il le fait sur des couvertures. Il y avait exposé au musée du Louvre de lui une couverture, je crois, des temps modernes, c'est-à-dire la revue de Sartre de l'époque. Et sur cette couverture, Giacometti avait peint 2 ou 3 têtes dans ce style, et en plus très coloré. Et puis la guerre. Alors, la guerre, il part pour la Suisse. Il avait commencé à travailler le plâtre. Le plâtre, c'était un matériau médiocre, c'était un petit matériau, c'était un matériau provisoire, c'était ce qui permettait après de faire une fonte. Mais lui, très tôt, avant de partir pour la Suisse, il fait quelques plâtres. Bon, il s'en va, en Suisse, il ne peut plus faire de plâtre, il revient en 45, et là, il reprend, et ça, c'est très fascinant, il reprend le plâtre, et puis surtout, il voit quelque chose d'autre, et cette émission devrait être un hommage à Pierre Schneider, il voit quelque chose de nouveau que la profondeur. Il veut peindre des personnages qui ressemblent à leur réalité et il ne les voit qu'à l'intérieur, j'ose pas dire d'un mystère, mais d'un volume très compliqué qu'est la profondeur. C'est-à-dire qu'on voit, soi-disant, d'assez loin. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que même si on est collé au personnage, et de temps en temps il se colle, dans le personnage, il y a une nouvelle profondeur qui n'est pas notre vision de la Renaissance, qui n'a rien à voir avec la géométrie de la Renaissance, et qui est celle qu'a, non pas découvert, mais en tout cas nommé, Pierre Schneider, qui est le fond sans fond, qui est le fond abyssal. Et ça, il le voit, il souffre de le voir. Alors là, il y a vraiment la bataille entre ce qu'il voit et puis les mains. Les mains, c'est le toucher. Il y a eu des films de lui, les photos ont été répétées, où il regarde loin, il a devant lui très souvent une tige avec du plâtre, il manie ça presque mécaniquement, sans regarder, et puis il regarde autre chose. Vous voyez, il y a cette discordance entre la vision qu'il veut donner et puis le toucher de la sculpture, et finalement, il croit qu'il peut accorder les deux, ce qui est peut-être impossible. Mais enfin, il arrive à des chefs-d'œuvre où finalement il les accorde, mais toujours dans la même perspective, dans la même profondeur. Ce n'est pas la distance, mais on voit toujours ces personnages de loin. D'ailleurs, il dit, si vous trouvez qu'une femme est jolie, il faut la voir de l'autre côté du trottoir. Et il confie, je crois, à Simone de Beauvoir, de temps en temps, quand elle marchait avec lui, il s'approchait du mur pour bien sentir qu'il y avait une réalité, parce que cette profondeur est dure à vivre. Si vous voulez, de temps en temps, elle fait apparaître le vertige, l'angoisse.
Alors voilà, et... oui, c'est un terme que vous veniez en préparant
tout le temps.
Cette émission.
Il en a beaucoup souffert, si vous voulez. Je ne veux pas dire une maladie, mais cette nouvelle vision qui s'imposait, il l'avait... Alors, il y a de multiples histoires. Brusquement, il a un rêve, ou je ne sais pas si c'est un rêve, ou il est éveillé. Il voit une serviette dans sa chambre. Cette serviette, elle est complètement isolée, elle ne repose plus sur rien. Vous voyez, l'objet qui ne repose sur rien, mais dans un nouvel espace, qui est ce fond sans fond, il les voit. Et il va les représenter. Alors, en sculpture, c'est compliqué. Parce que pour faire passer ça avec le plâtre, et le plâtre, on n'imagine plus maintenant, parce qu'il y a beaucoup de sculpteurs qui travaillent avec le plâtre, et que les plâtres, quoi qu'on dise, se conservent très longtemps et souvent très bien. Mais il y a beaucoup de sculpteurs qui préfèrent, on se demandait si, au bout d'un certain temps, ils ne travaillaient pas et ils ne préféraient pas l'huile plâtre. Et puis, alors, ils déformaient, mais ressemblant, des personnages extraordinaires, c'est l'homme qui marche.
Donc une des sculptures les plus connues de Giacometti.
Avec alors une déformation sur la hauteur, tout se passe en hauteur. Encore en hauteur, ces grandes femmes verticales qui apparaissent comme des statues égyptiennes, mais en même temps très figuratives. Elles ont des seins, elles ont des corps.
Elles ont des hanches.
Enfin, ce sont des femmes, ce ne sont pas des déesses. Elles ont... Et il parvient ici à presque une nouvelle anatomie. Par exemple, une tête. Alors, une tête très compliquée, ce que ne voulait pas faire Breton. Eh bien, lui, il l'a faite. Et il a, je crois, d'abord beaucoup dessiné cette tête parce qu'il y tenait.
Donc, c'est une tête sur
voyez, cette tête, elle est complètement creusée de partout. Bon, en plâtre. Et puis, il joue avec le matériau. Il y a une grande tige métallique qui, brutalement, est accrochée en bas de la tête et repose sur, de nouveau, un bloc de plâtre. Et il y a une opposition, en même temps un dialogue, en même temps une paradoxale concordance entre le plâtre et l'acier, et cette tige. Et tout ça, ça marche très bien, c'est très angoissant, c'est quand même superbe. Même chose pour la main. Alors la main, il la prolonge indéfiniment. Avec cette main, on ne voit pas jusqu'où elle peut aller. Parce que, dans sa vision, il a une vision, mais qui déforme. Et surtout, qui déforme les choses de près. Donc la tête, elle est toute seule. On n'imagine plus le corps. La main, il n'y a plus de corps. Il n'y a plus de tronc. C'est une main toute seule. Et ça sera la même chose pour le nez. Le nez est terrifiant. Un immense nez, on ne sait pas où il va. Et très important, cette espèce de cage. Cette cage, c'est le lieu de sa vue. C'est le lieu de sa profondeur.
Et ce nez
vient les isoler à l'intérieur de quelque chose, si vous voulez. Alors là, il joue le paradoxe. Parce qu'elle est dans la cage, mais elle en sort. Et il y a deux versions. Il y a une version en plâtre, que je vous montre là, sur laquelle il a strié un petit dessin sur le bout du nez. Et puis la version en marbre, où le nez est en marbre. Et puis les pieds. Alors les pieds, c'est compliqué, parce qu'il y a des socles immenses. Qu'est-ce que font ces socles par rapport au personnage? Et c'est pour ça que je voulais vous montrer aujourd'hui ces personnages qui se ressemblent, qui s'appellent quatre figures sur une base, une immense base. Et au-dessus, quatre petites femmes, cinq figures. Ils mettent cinq figures, moi j'en vois quatre, mais peu importe. Sur une base, font le tiers de la hauteur. Eh bien, il veut, dans ses sculptures, ce ne sont pas des socles. Ce n'est pas du tout le problème du socle. C'est très loin du socle. Ça doit passer dans la sculpture. Ça doit bouger. Et ça bouge, par exemple, par définition, dans L'homme qui marche. Mais ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, c'est incorporé. Autrement dit, ce qui se passe en bas, ça doit rentrer dans le haut. Et c'est paradoxal dans cette sculpture qui s'appelle le chariot.
Le chariot.
Le chariot, alors pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ce chariot ? Bon, il a été malade, je ne sais pas quoi, il a vu un chariot, peu importe. Mais en réalité, ce qu'il voulait, c'est que cette femme soit à hauteur d'homme.
Donc il y a une femme, hein, pour
alors,
expliquer aux auditeurs.
Alors, il y a deux roues, reliant ces deux roues une base, sur cette base, une femme très allongée, et qui finalement est à notre hauteur visuelle, si vous voulez. Et ça, c'est ce qu'il a voulu, c'est ce qui explique, disait-il, pour le chariot. Alors ce travail est effrayant, angoissant, il détruit tout, si vous voulez. Il y a toujours, et c'est vrai qu'il y a tout le temps opposition entre les mains qui manient le plâtre, et puis sa vision. Et de temps en temps, il arrive à la structure métallique, il casse à ce moment-là, ou il jette plutôt. De temps en temps, il s'arrête et il la laisse intègre, et alors il va torturer ses modèles, torturer son frère Diego, qui va rester là des heures et des heures, torturer sa femme. Et quand il la sculpte, il a oublié que c'est elle. Et après 4 heures de pause, il lui dit « Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi » alors qu'ils sont ensemble depuis 4 heures. Bon, tout ça, alors il l'a dessiné aussi. Il y a un livre qu'il faudrait lire qui est apparu après sa mort qui s'appelle « Paris sans fin ». Mais ce qu'il y a, à mon avis, de plus important, c'est sa fin à lui. Il part pour les États-Unis pour une exposition où il devait aller.
Il part en bateau.
Il part en bateau et on lui donne une préface à faire et il écrit. Et puis, quoi dire ici ? Il est sur le bateau, au milieu de cette mer qui n'a pas de fin, qui n'a pas de nom, au milieu de cette eau noire dans laquelle je pourrais sombrer, dans laquelle je pourrais être mangé, dévoré par des poissons aveugles et sans nom. Et finalement, il retrouve dans la mer cette vision du fond sans fond. Si vous voulez, ça, la même vision dont on a parlé à propos de Manet et à propos des tableaux marins. Bon, il la vit très mal. Et pour retourner, il demande à son frère, est-ce qu'il reprend un chemin par le pôle, un chemin de fer ? Finalement, il ne le prend pas. Il revient et il écrit, impossible de se concentrer sur quoi que ce soit, la mer envahit tout. Elle est pour moi sans nom, bien qu'on l'appelle aujourd'hui l'Atlantique. Pendant des milliers d'années, elle n'avait pas de nom. Et un jour, elle n'aura plus de nom, sans fin. Aveugle, sauvage comme elle est pour moi aujourd'hui. Comment parler ici des copies d'œuvres d'art ? C'était son travail qu'il devait faire, d'œuvres d'art éphémères et fragiles qui existent par-ci, par-là, sur les continents, œuvres d'art qui se font et défont, s'étiolent, qui se délarment jour après jour et dont beaucoup, et parmi celles que je préfère, étaient déjà ensevelies, enfoncées sous le sable. La terre et les pierres, et toutes suivent le même chemin, et toutes celles qui autrefois m'ont tellement exalté que je regarde aujourd'hui presque avec indifférence, qui pâlissent et se vide dans ma mémoire. Voyez la fin tragique. Il est pris, il est noyé dans ce monde, cette perspective, ce volume de fond sans fond.
C'est une obsession, une phobie.
Oui, et pour lui, c'est l'image de la mer. Et le drame, c'est qu'il écrit ça à la fin de l'année. Il rentre à Paris, il retourne dans son village italien et il meurt quelques jours plus tard, c'est-à-dire qu'il meurt, je crois, en 52, d'autre chose. Il n'est pas du tout mort de folie, il n'était pas du tout fou, mais il avait cette vision qui l'a sauvé, parce que son œuvre vient de cette vision, mais en même temps qu'il l'a tué. C'est une chose admirable.
Donc, son œuvre ultime, c'est justement cette vision qui lui apparaît.
Et donc, il n'y a pas d'œuvre ultime, il y en a plein. Toute cette série est là. Alors, tout le monde l'a senti, ça retourne autour, mais il ne le dit pas. Il dit, il y a un vide quand même, mais il ne va pas plus loin, parce que c'est compliqué de dire le vide. Il le dit très bien pour les dessins. Il dit, les dessins sont enfermés à l'intérieur des traits. Mais il ne va pas plus loin. Et au fond, je pense que c'est Schneider qui, brusquement, parce que ce vide, c'est lui qui l'avait étudié dans tout, il tombe sur un contemporain, il l'a connu, qui le pratique, qui le vit, qui essaye de l'interpréter avec un mythe. C'est que ce n'est pas par ce vide qu'il retrouve vraiment la ressemblance. Il retrouve la ressemblance, mais ce n'est peut-être pas vraiment à cause de l'environnement. immense sculpteur qui a donné lieu à toute une littérature que vous devinez.
Pourquoi avoir choisi de terminer cette série d'œuvres ultimes par Alberto Giacometti ?
Parce que je pense que c'est le seul qui l'ait vraiment vécu. Il l'a vécu, si vous voulez. Les autres, Manet, bon, il fait ça, est-ce que vraiment il l'a vécu ? Très souvent, ils le font sans en apercevoir. Lui, il racontait l'histoire de la serviette. Elle vient pas de Simone de Beauvoir. Il l'a raconté à Simone de Beauvoir, mais il l'a raconté parce que c'était une amie qui s'en plaignait. Il touchait les murs, c'était pas grave de toucher les murs, si vous voulez. Et c'est vraiment, il était en contact, et en plus, non seulement en contact, il la voyait, il essayait de la représenter, toujours pour la ressemblant. Quand il est arrivé à Venise, il a voulu repeindre ses sculptures pour qu'elles soient plus ressemblantes. Il était obsédé par la ressemblance. Il croyait que cette ressemblance ne pouvait se voir à l'intérieur de ce qu'il appelle cette profondeur. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et ça donne une création. Alors, il est inimitable. Et toute l'œuvre ultime, commence en 45 quand il commence à faire ses plâtres. Voilà, ça commence là et ça se termine en 52 quand il rentre à Paris, qu'il ne sculpte plus, mais que son œuvre est terminée. Alors, 45, 65, parce qu'en 66, il n'a peut-être pas tellement travaillé, autant d'années d'angoisse, autant d'années où cette forme, où ce paysage apparaît et lui permet qu'une sorte de mythe, une sorte de ressemblance. Les sculptures se ressemblent les unes les autres. Est-ce que vraiment elle ressemblait à son frère ? Est-ce que vraiment elle ressemblait à sa femme ? Je ne sais pas.
En tout cas, merci Monsieur Binet de nous avoir apporté à chaque fois votre éclairage sur toutes ces séries d'œuvres, de peintures et donc l'histoire de ces peintres, l'œuvre ultime consacrée à l'art. C'est aussi le thème depuis 2 ans de votre journée du livre à l'Académie nationale de médecine puisque vous en êtes le secrétaire perpétuel honoraire. Et j'ajoute que Canal Académie est partenaire de cet événement, de la journée du livre et donc cette année consacrée en 2011, vendredi 16 septembre, à l'œuvre ultime. Deuxième volet, numéro 2, et que nous retransmettrons la plupart des interventions de cette journée du livre, qui sont donc des conférences avec à chaque fois un artiste ou un critique d'art et un académicien de médecine.
Écoutez, je vous remercie de votre participation, parce qu'elle vient de donner plus de lumière à cette réunion, qui est intéressante, parce qu'à chaque fois, il y a un aspect médical. Je n'ai pas toujours tellement insisté sur l'aspect médical. Mais là, je ne sais pas si c'est médical ou pas médical, mais il y a une vision invraisemblable qui permet une œuvre. C'est une vision. Moi, je ne l'ai pas, cette vision, si vous voulez. Et c'est en même temps un hommage à Schneider, qui était le premier à le voir. Alors maintenant, on n'en parle pas assez de Pierre Schneider, mais il faut quand même le dire, il était le premier à la voir. Et d'assembler le tableau de Rochefort à Giacometti, il faut le faire. Hein, pas tout à fait le même monde. Enfin, il y a toujours la mer.
Et Pierre Schneider qui participera également à cette journée du livre 2011. Merci à vous, Jacques Lubinet, et puis j'espère à bientôt pour engager une nouvelle série en votre compagnie.
Non, c'est moi qui vous remercie.